I'd like to have a democracy.
Élections, le magazine des élections municipales de Radio PFM. Aujourd'hui, pour ce 13e numéro, on est avec Laura, Nico et Guy Le Polarski. Salut.
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 Avec au programme nos dossiers du jour, on s'intéressera avec Laura aux bureaux de vote et leur mode d'emploi. Et moi, je vous proposerai afin de comprendre comment les maires font campagne sans adversaire face à eux. Et bien sûr, on retrouvera Guy Le Polarski pour une nouvelle chronique aux urnes citoyens. Mais d'abord, Nico, tu nous proposes de faire le tour des différentes communes de la CUA.
Oui, 46 communes dans la communauté urbaine d'Arras. Il n'y aura pas de suspense à Annie, Basseux, Beaumet-les-Loges, Boiré-Saint-Martin, Boiré-Saint-Trictrude, Bois-le-Homard, Bois-le-Saint-Marc, Boyel, Écurie-Étrin, Fampoux, Farbu, Ficheux, Gavrel, Guémap, Hénin-sur-Cojol, Héninel, Neuville-Saint-Vin, Neuville-Vitasse, Ransard, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Martin-sur-Cojol, Télu, Wancourt, Villeurval. Pas de suspense puisque dans ces communes, il n'y a qu'une seule liste. Donc pas vraiment le choix pour les électeurs et électrices, ça fait quand même 25 communes sur les 46 de la CUA.
Et quid des communes avec deux candidats?
Alors il y a Ac, Anzin-Saint-Aubin, Atti, Bailleul-Sir-Bertou, Boiry-Becquerel, Achicourt, Dainville, Feuchy, Mercatel, Monchy-le-Preux, Mont-Saint-Éloi, Roclincourt, Reux, Sainte-Catherine, Thillot-les-Mauflaines.
Et les communes avec trois candidats?
Ben, il y a Bourin, Mareuil, on pourrait dire seulement parce que c'est une commune qui est habituée à avoir pas mal de candidats, il y en avait 4 aux dernières élections, Rivière, Saint-Nicolas, Wailly, et puis 5 candidats pour Arras, mais ça vous devez déjà le savoir je pense.
Alors, 5 candidats, est-ce que c'est le record pour ces élections dans le 62?
Et non, pas du tout. Bah déjà, à Calais, il y a 6 listes. Mais c'est une autre commune qui détient le record départemental, Coulogne, à proximité de Calais, 5438 habitants et 8 listes. C'est presque autant que les 9 listes de Lille. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous les citer toutes. Coulogne, un nouveau souffle. Réagir ensemble pour Coulogne. Coulogne apaisée. Coulogne passionnément. Fier de Coulogne. Coulogne, une ville qui bouge. Simplement Coulogne. Ou encore reprendre les caps.
Et comment ça s'explique le fait qu'il y ait tant de listes dans cette commune?
Bah apparemment, c'est une commune qui vit une crise politique et budgétaire depuis quelques années. Donc ceci explique cela. On aurait pu aussi évoquer le cas de Gouy-Saint-André, petite commune de 659 habitants, c'est près d'Edin. 4 listes là-bas, une commune à laquelle le journal Le Monde a consacré un article à l'occasion de ces élections municipales.
Merci Nico, donc on va continuer avec la chronique aux urnes citoyens de Guy Le Polarski et qui nous fait un petit topo sur au nom du maire.
L'échéance approche, nous sommes ce vendredi 13 mars à J-2 du premier tour des élections municipales. Vous avez sans doute reçu le matériel électoral, profession de foi et présentation des listes des candidates et candidats de votre commune. Reste à choisir. Alors déjà de voter ou non, et si oui, pour qui? Alors ça peut être assez simple si vous habitez dans une commune où il n'y a pas le choix, et elles sont nombreuses, Nico vient d'en parler, elles sont nombreuses dans le Pas-de-Calais, qui est le département quand même, à noter, qui compte le plus de communes. En France, 887 sur les 34 875 du territoire national, dont 357 pour le seul arrondissement d'Arras, 357 communes pour le seul arrondissement d'Arras, pour l'Artois-Ternois. Un grand nombre de petites communes, donc, est toujours sur cet arrondissement d'Arras, avec 267 d'entre elles où ne se présente qu'une seule liste. Alors, s'il reste toujours la possibilité de choisir le vote blanc ou nul, le choix y est plus simple que dans les communes où plusieurs listes sont en concurrence. Quoi qu'il en soit, votre choix est peut-être déjà fait, mais peut-être pas. Et dans ce cas, le nom donné aux listes candidates vous aidera peut-être à trancher. Un article du journal Ouest-France que j'ai parcouru lors d'un déplacement récent à Saint-Nazaire était d'ailleurs consacré à ce sujet, je cite, « municipal, ce que disent les noms des listes ». Ouest-France a passé en revue les noms donnés aux 50 478 listes en lice au niveau national pour ces élections municipales. Résultat, si le nom de leur commune y figure très fréquemment, les noms de ces listes laissent apparaître des mots-clés comme Ensemble, le plus employé par 13 000 listes, mais aussi Avenir, Agir, Vivre, Unis, Demain ou encore Pour tous. Consultée par Ouest France, la sémiologue Elodie Mielczarek, spécialiste de ces questions de choix de mots, souligne, je cite, une surreprésentation du consensuel avec ces mots, je cite toujours, gris-gris, agités comme des incantations impossibles à contester. Alors parmi ces noms de liste peuvent néanmoins émerger quelques perles. Ouest France a ainsi repéré Yolaine de Palmaert, maire sortante d'une commune de la Somme, une commune au nom qui ne transige pas, contre, et qui a choisi comme nom de liste... Alors, qu'a-t-elle bien pu choisir comme nom de liste, Nico? Tu dirais quoi, toi, qui m'as suggéré cette chronique?
Pour ou contre? Pour ouais, contre.
Voilà, bien vu. Réponse, agir ensemble. Pour contre, avec un nom de liste pareil, elle ne peut que faire l'unanimité. Alors bien sûr, le nom même de la commune peut être source de cocasserie. Je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner à mon cul, dit aussi mon cul, dans le Lot. Nous, dans le Pas-de-Calais, nous avons Achiette, et on prononce bien le T, que ce soit Achiette le grand ou Achiette le petit. Et asseyez-vous bien, pour cette dernière, une des deux listes en présence a pour nom à l'écoute des Achiétoises et des Achiétois. Plus romantique et toujours dans le Pas-de-Calais, nous avons la commune de Bellebrune, où on aurait pu espérer un peu plus d'audace que le « ensemble pour Bellebrune » de la seule liste candidate, en s'inspirant par exemple de ce qui est proposé à quelques kilomètres de là dans la commune d'Attain, où une des trois listes en présence a pour nom « pour l'amour d'Attain ». Toujours du côté du littoral, à noter le nom des deux listes candidates à Audressel, l'une des huit communes formant le grand site des deux caps. Un gardons le cap sans surprise, mais aussi un tous ensemble pour un vent nouveau, qui a de quoi décoiffer en bord de mer. Dans un genre un peu plus gaulien, j'ai repéré un libéron cauchy. Je vous laisse imaginer de quoi ou de qui. Bref, l'exercice est sans fin. Vous pouvez explorer tous ces noms de listes sur le site de la préfecture du Pas-de-Calais. Mais rapprochons-nous d'Arras. Alors j'ai évoqué mon passage à Saint-Nazaire, et bien pas très loin d'ici nous avons aussi un Saint-Nazaire, c'est Ablain-Saint-Nazaire. Et deux listes y sont en concurrence, la première, tous ensemble Ablain pour aujourd'hui et demain, et la seconde, Ablain aujourd'hui et demain. Le choix va y être cornélien, et est-ce que le plus du tous ensemble de la première liste fera la différence? Nous le saurons dimanche. Encore plus près d'Arras, j'ai repéré une liste dont le nom va sembler mystérieux à beaucoup, je cite... Action et proximité avec les médios l'année. Alors, on est dans quelle commune, là,
chers amis? On a déjà révisé.
Vous avez révisé? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, les pros de la radio locale. Oui, les médiolanais ne sont autres que les habitants de Saint-Nicolas-les-Arras. On a aussi le genre mousquetaire, là, c'est un Anzin-Saint-Aubin, où une des deux listes en présence a pour nom une commune pour tous, un avenir pour chacun. Je voulais aussi signaler Achicourt, commune de l'Arrajois, réputée pour sa fête de la carotte. Achicourt, cultivons demain. Le nom choisi pour sa liste par le maire sortant, qui porte bien son nom, entre parenthèses, Patrick Lemaire. Nous saurons dimanche si la récolte a été bonne face à sa liste concurrente menée par Ludovic Legrand, un nouvel élan pour Achicourt. Alors à force de s'en rapprocher, nous voilà à Arras, préfecture du Pas-de-Calais, la concurrence y est forcément plus importante, même si le résultat y a souvent été acquis dès le premier tour lors des dernières élections municipales, entre 4 et 6 listes par élection depuis 1989, de quoi se plonger dans un grand nombre de noms de listes. Alors y a-t-il une recette miracle, peut-on se demander? La simplicité peut-être. Pour la dernière victoire de la gauche en 1989, c'est par exemple un tout simple Union de la gauche qui a permis à la liste menée alors par Léon Fatou de l'emporter, certes de justesse, mais dès le premier tour. A noter le titre de la Voix du Nord de l'époque, pressé par les rouges et verts, Monsieur Fatou passe à l'orange. A noter aussi le nom de la liste de son challenger d'alors, challenger de droite et du centre, Arras en marche. Je ne sais pas si Jean-Marie von Lerenberg, il s'agit de lui, a demandé des droits d'auteur à Emmanuel Macron, en tout cas en marche, ça l'a fait au présidentiel de 2017. Et s'il n'a pas repris ce nom, Jean-Marie von Lerenberg a pourtant bien avancé entre 1989 et 1995 et a fini avec sa liste Arras pour tous par battre Léon Fatou, toujours lui à la tête d'une liste Union de la gauche, mais qui n'était peut-être pas l'union souhaitée par les électeurs de gauche. Avec vous Arras en tête en 2001 et Arras ensemble en 2008, Jean-Marie von Lerenberg s'installe profondément dans le fauteuil de maire. Un fauteuil qu'il a transmis à un Frédéric Le Turc, jusqu'alors indéboulonnable, tête de la liste Arras au cœur en 2014 et Arras pour vous en 2020. Alors pour 2026, pas de folie pour le maire sortant qui reste dans la même veine avec sa liste Arras avec vous. Pas de folie non plus du genre Arras sans lui, comme nom d'une des quatre autres listes en présence. Un rassemblement pour Arras sans surprise pour le Rassemblement National d'Alban Euzel. Antoine Détourné mène une liste d'Union de la gauche, d'Union de gauche et écolo changeons d'air avec le printemps arrajois, souhaitons-lui une météo électorale clémente. Yannick Kremer et la France Insoumise affiche leur latéralisation avec la liste Arras à gauche. Et enfin, Amadjid Bellaj s'inscrit dans un schéma récurrent et pas vraiment local avec sa liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. On peut peut-être regretter un manque d'audace et d'humour dans le choix du nom des listes des opposants en maire sortant qui auraient pu donner, par exemple, Frédéric Le Turc, on vous en débarrasse. Voilà, je vous laisse méditer sur tous ces noms de listes et leur éventuelle influence sur les résultats des élections. Pas sûr d'ailleurs que les indécis y voient plus clair. En tout cas, bon vote à toutes et à tous.
Président, résident de la République, couleur rose à des reflets bleus. Résident, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, 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 je sais pas.
Eh bien, merci Guy pour cette chronique. On enchaîne avec comment les maires font campagne sans adversaire face à eux. Alors, pour ces élections municipales de mars 2026, dans 68% des communes, une seule liste candidate a été déposée. Quelle incidence sur l'organisation du scrutin ? Lors des élections municipales, pour que l'élection soit acquise, au premier tour, il suffit qu'une liste obtienne la majorité des suffrages exprimés. Lorsqu'il n'y a qu'une liste, elle obtient nécessairement la majorité absolue des suffrages. Suffrages exprimés, les votes blancs ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés, je le rappelle. Et contrairement aux législatives, pour lesquelles il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, il n'est pas prévu de seuil minimal pour ces élections municipales. En conséquence, il n'y a qu'un tour de scrutin dans les communes où seule une liste est candidate. C'est également le cas dans les communes où deux listes se présentent, sauf si les deux listes recueillent un nombre de suffrages exprimés identique au premier tour. Si aucune candidature n'a été déposée ou si aucune liste n'est recevable, notamment en cas de non-respect de la parité ou d'un nombre insuffisant de noms sur la liste, et ce, quelle que soit la taille de la commune, l'élection ne peut pas se tenir et le conseil municipal ne peut pas être constitué. Par exemple, si dans une commune une seule liste est présentée et qu'elle ne répond pas aux critères de nombre de candidats et de parité, l'élection ne peut pas avoir lieu. Dans la Rajoie Ternois, le premier tour des élections municipales qui a lieu ce dimanche, donc, c'est une période de tension pour beaucoup de candidats qui se tirent dans les pattes, mais dans 267 communes de l'arrondissement d'Arras, on ne va pas tous les citer évidemment, aucune concurrence ne fait face à la tête de liste. Les candidats assurés d'être réélus à 99,9% entreprennent une campagne électorale sereine. On est plus décontracté et on ressent moins de stress à l'approche de ces élections, d'après le maire sortant et un nouveau candidat de Deauville-Saint-Va, Jean-Pierre Puchois, cité dans les pages de La Voix du Nord du 10 mars 2026. À Avesnes-le-Comte, Sébastien Berthoux est également seul en lice pour ces élections. On ne subit ni attaque ni fake news de la part des candidats d'en face, puisqu'évidemment, il n'y en a pas. À Saint-Laurent, Blangy ou encore Brebières, les campagnes sont menées comme si une liste d'opposition était présente. Et on revient avec Sébastien Berthoux, maire sortant d'Avesnes-le-Comte, qui reconnaît pourtant qu'avoir une opposition au sein du conseil municipal apporte quelques avantages. Elle offre un regard différent, propose des projets nouveaux quand elle est là et on veut être encore plus irréprochable. À Brebières, la mairie a toujours connu une opposition. C'est la première fois en 40 ans qu'aucune liste ne fait face à celle du maire sortant, et tous les candidats se satisfont d'être seuls pour une raison. Tous les colistiers présents sur leur liste siégeront au conseil municipal. Alors, une seule voix suffit ? Les communes avec une seule liste risquent-elles de battre un record d'abstention ? Et c'est pas la peine d'aller voter ? La phrase revient souvent dans ces communes où une seule liste se présente pour les municipales. En étant l'unique candidat, le maire sortant, dans la plupart des cas, est presque sûr d'être réélu. Et face à cette situation, les électeurs finissent par se désintéresser de la politique locale. Même discours pour Nicolas Desfachel, seul candidat à Saint-Laurent-Blangy. Mais depuis 2014, il a toujours été le seul candidat en lice pour ces élections municipales. Et malgré l'abstention extensions déjà existantes en 2020, il redoute que le taux s'accentue pour le premier tour. Et même ressenti pour Lionel David, unique candidat à Brebières. Il n'hésite pas à aller à la rencontre des habitants pour les convaincre de voter pour sa liste. Deux options restent possibles dans les urnes, voter blanc ou pour le seul candidat présent. Même si les votes blancs dépassent le nombre de votes pour le candidat, ils ne seront pas comptabilisés comme suffrage exprimé. Donc en résumé, il suffit d'une seule voix en faveur de la liste unique présentée pour qu'elle soit élue. I'd like to have a... Alors Laura, c'est la première fois que je vais voter et j'ai peur de faire n'importe quoi. Tu peux nous donner le mode d'emploi ?
Ah bon ? C'est vrai ? Bon, Boris, tu embarques un de tes proches qui te montrera le circuit. Ou au pire, tu suis la personne devant toi. Sinon, explication. Le scrutin est ouvert à 8h. Il est clos à 18h pour les municipales. À Arras, vous pourrez entendre les sirènes du système d'alerte et d'information des populations, ou sirènes des pompiers, retentir à 16h. Les mêmes que vous entendez chaque premier mercredi du mois à midi. Ensuite, il faut te présenter au bureau de vote indiqué sur ta carte électorale, à côté de la mention « lieu de vote ». Les électeurs n'ont pas le choix de leur bureau de vote. Le rattachement de celui-ci à un bureau dépend de l'adresse au titre de laquelle il est inscrit sur la liste électorale. Pour assurer le bon déroulement des opérations électorales, il est généralement admis qu'un bureau de vote n'excède pas 600 à 1000 électeurs. On vérifiera ensuite ton identité et on te donnera une enveloppe électorale. Sur les tables qui suivent, tu trouveras les bulletins de vote des candidats. La circulaire du 16 janvier 2020 précise qu'il faut te munir du bulletin de vote d'au moins deux candidats ou liste de candidats. Pour les autres électeurs qui nous écoutent, si vous êtes venu avec un des bulletins reçus par courrier à domicile en même temps que les professions de foi dans votre poche, alors vous n'avez pas besoin de vous munir d'un bulletin sur la table. Pour garantir le secret du vote, votre prochaine étape est de vous rendre dans l'isoloir. C'est obligatoire et vous risquez jusqu'à 15 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement, et le président du bureau de vote peut refuser votre vote si vous ne le faites pas. Bien entendu, vous glissez votre bulletin, un et un seul, on ne peut pas voter pour deux listes, hein. Désolé, il faudra faire un choix, dans l'enveloppe électorale que vous refermez.
Et si je vote blanc ?
Il faut glisser un bulletin vierge, qu'il faudra amener vous-même, car la distribution de bulletins blancs dans les bureaux de vote n'est pas autorisée par le code électoral, ou solution écologique, pas de bulletin du tout dans l'enveloppe. D'ailleurs, vigilance, sont déclarés comme nuls et donc non comptés comme suffrage exprimé les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires. Les bulletins ne comptant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins écrits sur du papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses, les bulletins pour des listes différentes contenues dans une même enveloppe. En revanche, si une enveloppe contient deux bulletins pour le même candidat, le vote est comptabilisé mais il ne compte que pour un seul. À la sortie de l'isoloir et sans quitter la salle du scrutin, vous vous dirigez vers l'urne où vous introduisez vous-même l'enveloppe. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait enregistrer son suffrage par la machine à voter. Dernière étape, signer ensuite la liste d'émargement, recevoir un tampon sur sa carte électorale, pour certains c'est collector. Elle n'est pas obligatoire pour voter, cette carte électorale, à condition d'être inscrit sur la liste électorale, d'émargement ou d'être porteur d'une décision de justice, d'inscription et de justifier de son identité. Sauf dans les communes de moins de 1000 habitants où les électeurs ne sont pas tenus de présenter un titre d'identité.
Et si mon handicap me complique la tâche pour voter, je suis obligé de faire une procuration ?
Pour rendre accessibles les techniques de vote à toute personne handicapée, le président du bureau de vote prend toutes mesures afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées. Il peut notamment autoriser l'abaissement de l'urne et les personnes en tutelle peuvent, depuis la loi du 23 mars 2019, exercer leur droit de vote de manière inconditionnelle. Le code électoral autorise tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe à se faire accompagner par un électeur de leur choix. L'électeur accompagnateur peut entrer dans l'isoloir, il peut également introduire l'enveloppe dans l'urne, et si la personne ne peut pas signer, l'électeur accompagnateur signe la liste d'émargement avec la mention « l'électeur ne peut signer lui-même ».
Et qui retrouve-t-on dans le bureau de vote ?
Les électeurs, déjà. Ensuite, vous trouverez un président, j'en ai vite fait parler au-dessus, qui peut être le maire, un de ses adjoints, l'un des conseillers municipaux ou un électeur de la commune désigné par le maire. Le président assure la police à l'intérieur du bureau de vote. Il dispose des autorités civiles et militaires qui sont tenues d'exécuter ses ordres en cas de tentative de fraude électorale constatée par lui ou qui lui sont rapportées, bourrage d'urne par exemple. Viennent ensuite au moins deux assesseurs, désignés par les différents candidats parmi les électeurs du département. Ils sont chargés notamment de faire signer les électeurs sur la liste d'émargement et d'estampiller la carte électorale. Vient ensuite un secrétaire, choisi parmi les électeurs de la commune, lui rédige le procès-verbal. Si le jour du vote, le nombre d'assesseurs est inférieur à 2, des électeurs présents, sachant lire et écrire le français, sont désignés assesseurs selon l'ordre de priorité suivant. L'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé. Chaque candidat ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence permanente dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué peut exiger l'inscription au procès-verbal de toute observation ou réclamation relative à ces opérations, avant ou après la proclamation des résultats du scrutin. Un même délégué peut être désigné pour plusieurs bureaux de vote.
Et au moment du dépouillement ?
Les scrutateurs effectuent le dépouillement des votes. Ils peuvent être désignés par chacun des candidats ou des représentants de liste en présence ou chacun des délégués des candidats. Leurs noms, prénoms et dates de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Les électeurs sont en droit d'assister au dépouillement pour connaître les résultats du scrutin dans leur bureau de vote. Dans les bureaux dotés d'une machine à voter, le président du bureau de vote, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs. Tout ça de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués, des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à voix haute des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. Enfin, une commission de contrôle des opérations de vote est instituée dans chaque commune de plus de 20 000 habitants. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Une fois le dépouillement terminé et les résultats de l'élection proclamés, le nombre de voix exprimées est recompté, puis les scrutateurs transmettent au bureau centralisateur les feuilles de pointage signées par eux, les bulletins de vote ayant été déclarés blancs ou nuls. Ces derniers sont conservés pendant 15 jours dans l'antichambre des scrutins, qui se situe à la préfecture ou à la sous-préfecture, puis ils sont détruits. Les autres bulletins, eux, sont détruits en présence des électeurs.
Eh bien, merci Laura pour toutes ces précisions. Et on va terminer avec Nico, donc, pour parler de la campagne à Arras et surtout d'une première campagne numérique.
Ouais, c'est assez marquant comment cette campagne s'est aussi déroulée sur Internet. C'était assez peu le cas lors des précédentes en 2020 et 2014. Il y a eu certes des porte-à-porte, des distributions de tracts en ville, sur les marchés, des rencontres directes, des réunions publiques, des meetings, des choses donc loin des écrans, mais aussi une grosse campagne sur les réseaux. Postes de présentation des colistiers et colistières, des petits clips de campagne, des lives sur les réseaux sociaux où les candidats ont répondu aux questions des internautes. On a vu aussi pas mal de facecam, hein, donc des face caméra, notamment Antoine Détourné et Frédéric Le Turc. Parfois dans des petites mises en scène, par exemple on a vu Frédéric Le Turc en train de faire son jogging ou Antoine Détourné en train de s'agacer en lisant le track de Le Turc. Récemment, la liste d'Antoine Détourné a aussi proposé un reportage en 3 épisodes, pas mal foutu, hein, dans lequel sa colistière, Céline Demont, joue le rôle de journaliste et l'interroge sur l'abbaye Saint-Va.
Bah, c'est pas mal foutu, mais parfois certaines vidéos de candidats sont un peu maladroites, non ?
Bah oui, clairement, on a envie de dire au candidat RN Alban Euzel, allume ton micro garçon et dis à ton colistier d'arrêter de lire le prompteur.
Et est-ce que c'est consulté tout ça ?
Ben, les scores sont honnêtes hein, pour une ville de la taille d'Arras. Je ne sais pas si ça fait office de sondage, je ne pense pas, mais on peut s'amuser à comparer le nombre de followers des différentes listes sur les différents réseaux.
Et ça dit quoi ?
Alors, sur Facebook, Le Turc est devant, 2500 followers. Le Printemps Arrasois est à 1000, Arras à gauche, 850. Sur Insta, par contre, donc Instagram, c'est Arras à gauche qui est largement devant les deux autres avec 625 followers.
Bon, bah, en résumé, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ?
Ça nous dit que les candidats vont chercher les gens là où ils s'informent. Il y a pas mal de gens qui s'informent uniquement via les réseaux sociaux et qui ne lisent plus du tout les journaux. On a l'impression que c'est de plus en plus vrai dans les villes plus grandes notamment. D'ailleurs, la Voix du Nord à Arras a relativement peu couvert la campagne sur Arras, peut-être 2 articles par liste. Mais par contre, la Voix du Nord a fait un gros boulot sur toutes les communes autour d'Arras en interviewant toutes les listes. Sans doute une stratégie du journal régional qui identifie son lectorat plutôt vieillissant, il faut le dire, et plutôt à la campagne, en tout cas en dehors des zones, des grandes zones urbaines.
Et quid de la télé ?
Eh bien, pas grand-chose, en tout cas ce qui concerne Arras, sans doute une ville qui n'est pas identifiée comme pouvant basculer. France 3 n'a pas consacré de débat à notre ville, on en a déjà parlé dans ce magazine, et a récemment consacré un reportage de 5 minutes et 15 secondes à la campagne sur Arras. Et c'est tout. Alors forcément, c'est un peu en mode cliché. Hein. Arras, la ville du Main Square et du marché de Noël.
Bon, bien sûr, on n'oublie pas les radios.
Ben oui, PFM, on a essayé de faire le taf. Et puis, il y a aussi Planète FM qui a fait quelque chose et qui a proposé cette semaine des interviews de candidats sur Arras que vous pouvez aussi retrouver sur leur site internet.
Ben merci Nico pour cet éclairage et c'est la fin de ce 13e numéro d'Élections. On se retrouve évidemment dimanche pour cette soirée électorale à partir de 19h30. Et bien sûr, vous retrouverez toutes les interviews avec les différents candidats sur Arras sur le www.radiopfm.com. Democracy, I'd like to democracy, have a democracy, 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 democracy.